Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez FM Plus sur le réseau 91 Montpellier 103.1 Nîmes et c'est De Visu, le rendez-vous bimensuel des arts contemporains en région, arts visuels et performances, un magazine proposé par Lise Haute. Thème de l'émission du jour, dessin EIN, du geste à la pensée du geste, un propos initié par Drawing Room 2016, salon du dessin contemporain à Montpellier du 14 au 18 septembre, des entretiens avec Nicolas Bourriaud, directeur de la Panacée, Sylvie Guiraud, directrice de la galerie Iconoscope à Montpellier, entretien aussi avec la plasticienne Lina Jabour qui expose à la galerie Apertot et pas de côté avec l'artiste Anthony Muntadas à propos du projet en cours Publicité politique. Drawing Room 2016, salon du dessin contemporain à Montpellier, débute sa 7e édition dans cette première quinzaine de septembre à la Panacée, centre d'art contemporain du 14 rue École de Pharmacie, pour se poursuivre jusqu'au 18 septembre. Comme chaque année, l'organisation repose sur l'association de 5 galeries montpelliéraines, Alma, Apertot, Chantier Boîte Noire, Iconoscope et Vasistas. Deux nouveautés néanmoins. D'une part, la direction assumée de Nicolas Bourriaud, nouveau directeur de la Panacée, qui souhaite insuffler une dynamique d'open space, d'espace ouvert autrement dit, à l'événement. Je profite de ce moment pour rappeler que Nicolas Bourriaud a été aussi désigné depuis novembre dernier pour diriger la préfiguration du futur centre d'art contemporain qui devrait ouvrir en 2009. Autre nouveauté, d'autre part, s'agissant de Drawing Room, une implication plus féminine avec cette décision de confier le commissariat artistique de l'événement à deux critiques d'art, Johanna Carrier et Johanna Neves, de la plateforme Roven. Roven, R-O-V-E-N, étant à la fois un blog dédié au dessin accessible sur le web et une revue éditée par les Presses du Réel depuis 2015. Pour cette 7e édition de Drawing Room, Johanna Carrier et Johanna Neves ont choisi un propos singulier qu'elles formulent sous l'intitulé « Outiller le dessin », qui présente cet avantage de mettre l'accent sur la pluralité des moyens employés pour réaliser une œuvre qui n'est plus, on le sait, comme dans la tradition, ni une esquisse préparatoire à un travail plus ambitieux, ni seulement réalisée sur du papier avec des crayons ou à la plume, mais une œuvre à part entière. Selon les termes employés par les deux critiques, l'idée même de dessin s'est transformée sous l'effet de l'art conceptuel. Le concept est alors, je les cite, devenu principe, immatériel, spirituel, idéal, parfois mystique, de la pratique artistique qui, elle-même, n'en demeure pas moins un faire. Elle note aussi, je les cite encore, peut-être justement par sa disponibilité et son ouverture au-delà des genres artistiques, le dessin nous permet de nous concentrer sur un langage propre au processus, à l'inscription, à l'écriture, par l'intermédiaire de son paradigme le plus élémentaire, la ligne. C'est ainsi que n'importe quelle marque, par n'importe quel moyen, sur une variété de surfaces, peut détacher le dessin de ses matériaux habituels, le papier et la mine de graphite. Où alors retrouve-t-on le dessin, s'interrogent les deux critiques. Une des réponses immédiates est sans doute l'ordinateur ou le programme informatique pour être exact, avec son prolongement machinique du scanner, de l'imprimante et de la projection vidéo. Alors j'ai pu, à l'occasion de l'ouverture du Salon du dessin, avoir un entretien avec Nicolas Bourriaud, directeur de la Panacée. On l'écoute tout de suite. Il nous donne son sentiment sur Drawing Room 7e édition, dont il reconduit l'accueil de la manifestation.
Il me semblait important en fait d'accueillir Drawing Room, qui est une manifestation qui existe depuis plusieurs années, mais qui me semble centrale pour un lieu comme la Panacée, dans la mesure où c'est une manifestation fédératrice en fait du réseau des galeries et du privé en fait en général à Montpellier, métropole, parce que finalement je crois que c'est le sens ultime en fait du projet de centre d'art qui ouvrira en 2019. Dont la Panacée est aussi en fait un instrument, une préfiguration, un lieu un peu expérimental, laboratoire qui va aussi aboutir donc à la création de cette nouvelle institution. Et l'idée même du centre d'art, c'est finalement d'être un outil de synergie aussi pour la scène locale. C'est très important de ne pas le concevoir comme un simple bâtiment qui va ouvrir. Ça va être plutôt une sorte de hub, si vous voulez, ou de centre névralgique qui va irradier et qui va bénéficier à l'ensemble de la scène et des acteurs montpelliérains. Donc comment mieux le montrer qu'en continuant à accueillir Drawing Room, donc, qui aura lieu aussi l'année prochaine, qu'on va essayer de développer encore, parce que c'est une manifestation qui reflète le dynamisme un peu éclaté. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Je pense que c'est un atout, ce n'est pas forcément un défaut. La scène montpelliéraine est assez éclatée en beaucoup de petits lieux, des lieux tenus par des artistes, comme Apertaux d'ailleurs, la galerie Apertaux, et beaucoup d'autres. Et je pense que ça peut être une force. Donc moi, je m'appuie sur cet éclatement, sur cette multiplication de petites initiatives pour en faire finalement le point central de ce que sera le futur centre d'art.
Oui, alors dans cette édition qui est la 7e, vous insufflez un désir qui est celui d'open space, c'est-à-dire d'espace ouvert, que l'on peut entendre, à mon avis, pas seulement du point de vue spatial, mais être aussi du point de vue de la pensée.
Ah, c'est aussi philosophique, oui, bien sûr. Je pense que c'était très important de cloisonner le moins possible. Et il faut montrer l'exemple et appliquer ces principes de manière claire. Le cloisonnement et le fait d'avoir comme ça des activités parallèles qui ne se rencontrent pas, je trouve que c'est toujours négatif. Je pense que c'est très important de créer à Montpellier, de contribuer à créer à Montpellier en fait une atmosphère genre plus ouverte. C'est pour ça aussi d'ailleurs que je discute volontiers avec mes homologues du théâtre, de la danse, genre de la musique, parce que ça doit faire partie des atouts du futur centre d'art. Ça doit refléter cette dynamique ouverte.
Et la dynamique ouverte, ça suppose aussi qu'il y ait peut-être aussi des liens qui s'établissent entre les disciplines. Ça suppose un peu de transdisciplinarité, autrement dit.
Absolument, oui. D'ailleurs, Rodrigo Garcia en fait, en train de faire un projet en fait, pour la première exposition de ma programmation, le 27 janvier prochain. Voilà, c'est une surprise, mais c'est important de le concrétiser aussi et de le faire de manière très, très, très spontanée, comme ça, avec un esprit de collaboration, je crois. Voilà, là encore, ouvert. Voilà, je crois que c'est le maître mot.
J'ai rencontré aussi, à l'occasion donc de Drawing Room, Sylvie Guiraud, directrice de la galerie Iconoscope, qui nous livre son sentiment sur le salon et sur son importance pour l'art contemporain à Montpellier. À noter que parallèlement à son implication à Drawing Room, Sylvie Guiraud expose dans sa galerie Iconoscope située à Montpellier, 25 rue du Faubourg du Couraud, une sélection de 7 artistes, parmi lesquels Sigurdur Árni Sigurðsson, artiste familier de la galerie, pour une sélection qu'elle a opérée cette année avec le jeune critique Michael Roy. On écoute Sylvie Guiraud.
C'est la 7e édition de Drawing Room. Et c'est vrai qu'on voit qu'au niveau du public, il y a une bonne image, un intérêt et de plus en plus de visiteurs, puisque l'année dernière, on avait plus de 6000 visiteurs à la Panacée. Alors ce qui est important, c'est qu'effectivement, on a changé de cadre et qu'on a des lieux vraiment très adaptés à cette manifestation, avec 700 mètres carrés d'exposition, plus ce patio paysager qui est à l'intérieur, qui permet, après avoir visité le salon, de discuter, de prendre le temps. Donc voilà, c'est vraiment des conditions très idéales, on va dire, pour le salon.
Oui, surtout par rapport à Sainte-Anne, on va dire, qui était beaucoup plus confiné.
Oui, plus confiné et plus problématique en termes d'organisation au niveau des cimaises, puisque là, on a quand même pas mal de murs qui sont déjà en place et on n'a pas ce coût en fait de cimaises à prévoir dans le budget du salon. Donc cette année, la nouveauté, c'est que Nicolas Bourriaud est donc nouveau directeur de la Panacée, qui fait partie aussi du comité de pilotage du salon. Donc son expertise nous aide à avoir un salon encore plus qualitatif. On a fait appel donc pour l'événement du salon à donc Johanna Neves et Johanna Carrier, qui sont plateforme Roven, la revue donc spécialisée dans le dessin contemporain, et c'est elles qui nous ont proposé donc une sélection par rapport aux collections privées. Donc certaines collections, c'est des membres de l'ADIAF, l'association internationale de l'art français, et ensuite d'autres collections privées ou des collections de galeries ou de fondations.
Donc, de galeries ou de fondations qui sont plutôt parisiennes, j'ai l'impression.
Oui, plutôt parisiennes. On s'est cantonné à Paris parce que, bon, après, c'est pour des raisons pratiques au niveau du transport. Si on avait eu plusieurs points au niveau du territoire, c'était plus compliqué
à gérer.
Déjà, là, c'est pas mal compliqué. Et donc, il y aura à peu près une soixantaine d'œuvres qui seront présentées sur un mur, on va dire, recto-verso, et qui seront un petit peu l'événement du salon. Le titre étant, cet événement étant outiller le dessin, c'est-à-dire tous les outils qui permettent, aussi bien techniques ou intellectuels, qui permettent de donner au dessin une existence contemporaine. Oui. Voilà. Parce que la qualité, ça a toujours été une priorité pour nous au niveau de l'organisation du salon, même si les budgets étaient pas, ne permettaient pas non plus de faire un salon international, mais on a toujours essayé d'avoir, en tout cas, au niveau de ce qui était présenté, une qualité des œuvres, et au niveau de l'événement aussi, d'amener soit un artiste international, soit une collection aussi, par exemple, la collection du Lac à Sigean, avec vraiment des artistes de haut niveau. Donc la qualité, elle a toujours quand même été dès le départ, mais c'est vrai que, bon, avec la Panacée, on a un espace qui est beaucoup plus important. Au niveau budget, ça, le budget qui passait au niveau des CIMES a été répercuté, pas complètement, mais en partie, sur d'autres
postes.
Et effectivement, je pense que de plus en plus, le salon devrait se développer au niveau qualitatif. Donc cette année, donc, il y aura deux conférences aussi qui sont prévues. Une avec Drawing Lab, avec Christine Fall qui viendra présenter Drawing Lab, mais aussi avec, en tant que modératrice, Joanna Neves et les artistes
de Roven, hein.
Et Abdelkader Benchama, Olivier Notley, qui sont aussi des artistes et qui sont vraiment impliqués dans le dessin. Donc je pense que cette conférence, cette espèce de conférence, une table ronde, on va dire, conférence-table ronde, va permettre d'avoir un aspect, enfin, une vue sur le dessin contemporain assez intéressante et pertinente.
Oui, surtout en lien avec cette idée d'outiller le dessin, voilà, puisque là, les deux artistes en question ont des points de vue aussi sur ce sujet. Hein. Abdelkader Benchama, on l'a vu en particulier donc, à l'espace Sainte-Anne, utilisant des outils particuliers pour certains dessins, mais aussi faisant intervenir d'autres outils pour faire des fresques, par exemple.
Ouais. Olivier Notley aussi, qui travaille beaucoup avec l'espace, donc c'est surtout outiller le dessin. Je pense que c'est comment les outils, en fait, ouvrent d'autres espaces au dessin contemporain. Au cours d'une conversation avec Daniel Dezeuse, c'est lui qui m'avait parlé de cette idée de salon du dessin, et donc on a trouvé que c'était un événement, effectivement, qui pouvait être intéressant pour les galeries, en termes de visibilité et en termes de créer un événement autour de l'art contemporain dans cette ville. Et on a choisi le dessin aussi parce que ça nous limitait au niveau de... au niveau des choix des galeries, au niveau... On ne voulait pas partir dans quelque chose, un festival ou un salon d'art contemporain tout court, parce qu'à ce moment-là... Pour nous, ça paraissait plus difficile à mettre en place
du budget déjà,
et puis même au niveau de toucher le public. Et c'est vrai que le dessin, c'est quelque chose de quand même d'assez intime, et les gens vont plus facilement vers le dessin peut-être que d'autres.
Oui, et puis il y a une histoire de format aussi.
Ouais.
Des formats très différents dans le dessin.
Voilà. Et donc, et en même temps, ça effectivement ce côté plus abordable.
Je précise que Daniel Dezeuse était l'an dernier l'invité donc du Fonds régional d'art contemporain. Il faisait d'ailleurs une exposition qui avait toutes les allures d'une exposition monographique et d'importance, hein, ce qui était assez, je dirais, particulier. Cette année, est-ce qu'il y a ce genre de proposition, ou est-ce que les choses sont davantage autour, ou autrement dit, qu'est-ce qu'il y a de nouveau si il n'y a pas cet aspect un peu fort sur un artiste par ailleurs bien connu au plan national, sinon international?
Non, mais je pense que c'est l'invitation justement aux deux commissaires de la plateforme Roven qui va créer cet événement. C'est-à-dire que voilà, là, c'est deux commissaires extérieurs qui ont pris en main cet événement. Et voilà, je pense que ça va être un peu le moment phare du salon.
Je vois que cette année en particulier, il y a donc un prix Galerie Lafayette qui va être attribué à l'un des artistes représentés par les galeries du salon. Je vois qu'aussi il y aura donc une exposition au FRAC, donc Fonds Régional d'Art Contemporain, qui s'intitule Post-Production. Hein, donc ce sera l'exposition qui prend la suite celle qui avait été accordée à Daniel Dezeuse. Ensuite, il y a une bourse de la jeune création, il y a un accrochage de dessins, des nominés à la bourse Jeune Création qui seront présentés à l'École supérieure des Beaux-Arts. Et puis il y a une exposition d'une œuvre de Douglas Gordon à l'École nationale supérieure d'architecture de Montpellier. Mais peut-être quelques mots sur cette bourse Jeune Création alors.
Alors cette bourse Jeune Création, elle existe depuis presque le départ du salon. Donc au départ, on avait pris des écoles de la région, c'est-à-dire Nîmes, Montpellier. Ensuite, on a étendu au fur et à mesure au Grand Sud. Et là, cette année, on a décidé que c'était sur le territoire national pour avoir justement plus de candidats et pour avoir une espèce d'émulation qui se crée au niveau de cette bourse. Donc là, donc, on a pu sélectionner 15 nominés. Mmh. Et donc le lauréat aura aussi une exposition qui sera prévue à l'espace Saint-Ravi, donc une espèce de suite un peu à cette bourse, puisque au départ c'était simplement une bourse et ça s'arrêtait là. Et là c'est intéressant puisque ça va évoluer dans le temps. Et je pense que effectivement ce qui serait peut-être intéressant, c'est de l'élargir au niveau européen, aux pays en tout cas limitrophes de français, pour que ça pose pas trop de problèmes, toujours d'un point de vue pratique, au niveau du transport, au niveau des déplacements. Mais je pense qu'il peut y avoir quelque chose d'intéressant justement au niveau de la jeune création, de développer cette bourse au niveau européen.
h 42, quelques minutes avant ce midi le juste que Paul Valéry célèbre dans son poème Le cimetière marin, est le titre de l'actuelle exposition de Lina Jabour à la galerie Apertot, que l'on peut voir 1 rue Étienne Carder jusqu'au 25 septembre. L'artiste d'origine libanaise a conçu une installation de dessin qui plonge le visiteur dans un flamboyant et scintillant bain de soleil, la galerie étant allée jusqu'à donner au pilier central la dimension repeinte en jaune de l'aiguille d'un cadran solaire dont l'ombre portée peinte en bleu nuit s'étale du sol sur le mur. Ce titre de 11h42, très péremptoire dans son acception première, est paradoxalement une invitation au vacillement des sens de la vision, eu égard au travail de nature très pointilliste de l'artiste, par ailleurs diplômé des Beaux-Arts de Bourges en 1998. Sur le papier, les touches s'ordonnancent comme pour faire ressentir le scintillement de la mer sous le soleil ou le poudroiement des rayons sur la réalité, modifiant les contours des objets et les transportant dans une atmosphère littéralement chatoyante et irréelle dont Lina Jabour trouve l'inspiration à Marseille où elle a aujourd'hui son atelier. Pour autant, 11h42 s'avère aussi une exposition pour faire le point sur une culture d'origine orientale, le Liban en l'occurrence, où se conjugue l'influence du tissage des tapis, l'influence aussi de l'entrelacement produit par le tressage des paniers et des corbeilles, encore très vivace aujourd'hui, comme on va l'entendre dans l'entretien que l'artiste m'a accordé.
L'idée, donc, c'est comme vous l'avez dit, d'être immergé dans un espace qui est reconfiguré pour l'exposition. Le titre 11h42, c'est une manière justement, comme vous dites aussi, d'arrêter ce temps-là pour appuyer l'étirement du temps et l'étirement du temps aussi qui se passe dans la réalisation du travail de dessin. Dans toutes les séries de dessins qui sont présentes dans l'exposition, il y a un geste qui est très présent, qui est répétitif, et une temporalité du faire qui est dans mon travail quelque chose d'assez important.
Oui, on rentrera dans les détails de tout ça. Je voudrais quand même qu'on revienne sur ce 11h42, parce que quand on dit 11h42, suivant les villes ou les territoires dans lesquels on se trouve, on ne sait pas si c'est le matin ou si c'est le soir.
Oui.
Alors,
Vous jouez aussi sur cette ambiguïté ou est-ce non. que c'est le matin?
Non, c'est le matin. Oui, c'est plutôt proche de midi.
Alors pourquoi vous avez choisi ce moment proche de midi justement? Vous êtes peintre quand même, hein?
Un petit peu.
Et on sait que le midi pour un peintre, ça a été quelque chose dans l'histoire de l'art.
Oui, oui.
Donc pourquoi choisir justement quelques minutes avant donc ce moment zénital absolu de la lumière sur les objets qu'on observe, hein?
Alors c'est vrai qu'à une époque je faisais des dessins qui étaient beaucoup plus liés à cette lumière du midi même, donc avec des contrastes très forts, une lumière écrasante, c'était vraiment très très graphique. Donc je pense qu'il y a ça qui persiste encore en moi. Puis bon, après j'habite aussi à Marseille, donc c'est une lumière à laquelle je tiens énormément. Et puis après, c'est à la fois, comment dire, ça s'est fait aussi quand je suis venue visiter le lieu au mois de juillet, où à la fin de la journée, on a regardé l'éclairage qui était possible pour l'accrochage. Et puis il y a un des spots qui est en face du pilier qui était un petit peu plus complexe par rapport aux autres parce que Alain me dit bah voilà, ce spot en général on ne l'allume jamais parce qu'il fait une ombre portée sur le mur d'en face.
Oui, Alain Lapierre. Hein,
Alain Lapierre, oui, pardon. Oui. Et donc moi tout de suite dans ma tête je me suis dit bah c'est intéressant justement, même si par rapport aux œuvres qui sont exposées ça fait des reflets, etc. Mais il n'empêche que d'un coup il peut y avoir une lumière artificielle qui vient donner une sorte d'indicateur de cadran solaire. Donc d'où est venue l'idée, il y avait la possibilité donc, de choisir la couleur du sol, donc après, voilà, de ce basculement du sol vers le mur avec la même couleur, et de prendre en compte aussi ce pilier qui est quand même assez important dans l'espace, et de dans l'idée que ça soit un cadran solaire. Pour moi, ce titre est très énigmatique, en tout cas pour l'autre, celui qui le lit, mais je dirais plus que ce qui relie à mes origines, c'est davantage ce qu'il pourrait y avoir à l'intérieur des dessins. Donc le rapport au tapis, le rapport à la tempête de sable, le rapport au motif du palmier, qui rentre pas forcément dans l'idée d'un exotisme d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qui est pas du tout, enfin je travaille pas autour de ces questions là, mais en tout cas qui renvoie on va dire de manière un peu globale à une région.
Mmh, voilà. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'orientalisme.
Pas du tout.
Voilà, on n'est pas dans l'orientalisme, mais néanmoins, on est l'espèce dans la recherche d'une sorte de vérité, on va dire, de ce
de quête.
Ou de quête.
Ouais, de quête peut-être.
Ouais, de quête d'éléments assez fondamentaux de la culture libanaise, que l'on perçoit donc dans les œuvres proposées, puisqu'il y a effectivement un grand dessin orange, très flamboyant, dans lequel on perçoit la représentation d'un palmier. Mais ça peut être aussi celui que vous voyez à Marseille, n'est-ce pas ? Voilà. Hein. Puis Marseille n'est pas non plus n'importe quelle ville vis-à-vis de tous ces territoires. Oui. Hein. Et puis il y a beaucoup, alors là je vais vous laisser peut-être nous amener là-dedans, il y a beaucoup parmi les propositions que nous voyons, un travail très attentif de trame, de même je dirais de chaîne, qui renvoie donc à ce qu'il en est du tissage, à la fois dans ce que l'on voit, mais aussi dans votre manière de faire.
Oui.
Donc cette manière de faire, j'aimerais bien qu'on en ait davantage de perception avec les explications que vous pouvez nous donner, d'autant plus que cette année, Drawing Room s'intéresse à une thématique qui est portée donc par deux critiques de la revue Rowen et qui est outiller le dessin.
Oui.
Donc c'est pour ça que je me dis, là, il y a quelque chose qui est intéressant dans la manière dont vous outillez les représentations plutôt que peut-être seulement le dessin.
Oui. Alors il y a plusieurs gestes qui dépendent des formats des dessins. Les dessins orange, ce sont des gestes qui sont, je dirais, un petit peu plus amples, même si ça reste très concentré.
Qui ont un aspect assez nuageux.
Qui ont un aspect nuageux. C'est des paysages qui sont pris dans une tempête de sable.
De sable très orange.
Sable très orangé.
Très belle d'ailleurs.
Voilà, très lumineux. On perçoit à peine le motif de la voiture, le motif de l'architecture, la voiture, le paysage de palmiers. D'ailleurs, cette série de dessins est un triptyque, donc c'est une sorte de bribe de narration, c'est comme ça que je les nomme. Et si je dis ça, c'est aussi pour renvoyer à la question de la trame. C'est-à-dire que la trame, elle est autant présente par rapport à une composition de plusieurs points qui viennent former un motif, que une trame qui est l'idée d'une narration, en fait, de qu'est-ce qui vient.
C'est le synonyme de narration.
Voilà,
oui.
Et pour revenir à cette question du titre, le titre, en fait, il vient donner aussi une sorte d'énigme à l'intérieur de toutes ces propositions de trame. Quant aux dessins sur calque et les dessins sur papier millimétré, ce sont des gestes qui sont beaucoup plus concentrés. Et là, il y a un rapport qui est presque plus méditatif au dessin et qui demande vraiment une concentration assez forte. Et d'autant plus sur le papier millimétré parce que ce sont des points que je réalise un carreau sur deux et les carreaux sont minuscules. Oui. Donc il faut vraiment être très concentré un carreau très sur deux pour pouvoir pas se tromper. Et à la fois, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'erreur du geste. Et donc dès que je fais une erreur dans mon geste, je m'adapte et je l'accepte et elle fait partie aussi intégrante du dessin. Donc pour moi, c'est presque comme si le geste faisait le dessin au fur et à mesure, avec toutes ces erreurs comme un tisserand. Si on revient à cette question du tapis, en fait, il pourrait y avoir des nœuds dans la fabrication du tapis.
Oui, de toute la figure le tapis met en évidence.
Voilà. Et pour moi, c'est assez important cette question de l'accident, de la main qui fatigue. Alors après, moi, je me rends compte aussi quand je fais des dessins et que je commence à fatiguer, que les erreurs, elles sont de plus en plus grandes en fin de journée. Mais c'est pas systématique non plus. Donc après, c'est aussi des dosages avec tout ça, parce que quand moi je m'arrête, quand vraiment je ne peux plus tenir le crayon, je ne peux plus regarder le papier. Il y a des limites physiques aussi à ça. Comme avec les grands dessins orange, où là, je les fais à la verticale. Et donc voilà, il y a des gestes qui sont plus amples, où c'est des balayages en fait, de la main avec le crayon de couleur. Et à chaque fois, c'est des outils que je n'adapte pas forcément au format. Donc un crayon de couleur assez fin, donc c'est pas des grosses mines, en fait. Voilà. Et ça, c'est aussi important parce que le geste, il est encore plus marqué déjà, et ça donne aussi une autre temporalité au dessin même. Mm-hmm. Donc pas seulement au temps de la réalisation, mais même, je trouve, au sentiment qu'on peut avoir à l'intérieur du dessin.
Quelle est l'émotion? Enfin, il y a une émotion dans ce que vous faites, ou c'est simplement, vous avez parlé de fatigue, oui. Hein, vous avez parlé des limites que votre corps vous amène finalement à respecter, ou à dominer, ou à dépasser, ou à intégrer. Mais est-ce qu'il y a aussi une dimension émotionnelle là-dedans, ou est-ce que c'est simplement, comme vous l'avez dit aussi, un cheminement d'ordre métaphysique, on va dire?
Oui, je crois que c'est plus une recherche de concentration, en fait, du geste, et trouver une sorte de juste mesure du geste. Une philosophie de travail, même.
Philosophie de travail. Ouais, expliquez-nous ça.
Une manière. Alors là, je pourrais peut-être encore plus le dire par rapport à cet été où donc, j'ai réalisé les dessins sur papier millimétré pour l'exposition, où il y avait où j'ai eu un rapport assez ascétique. Et donc il fallait que je sois ultra concentrée. Je crois que c'est ce support-là et ce geste-là, je crois, en tout cas pour l'instant, c'est le rapport le plus méditatif que j'ai eu au travail. Et donc c'était nécessaire pour moi de dormir bien, de me lever tôt, d'être concentrée à l'atelier. Bon, après, s'il y a des horaires plus tardifs, après, c'est pas le fait de se lever tôt ou de se coucher tard, peu importe, mais c'est d'arriver à l'atelier d'une manière très concentrée et donc d'être reposée à un moment donné et dans le silence aussi, dans l'atelier pour réaliser les dessins. C'est aussi une forme de plaisir au travail.
le dessin, tel est le mot d'ordre, je le rappelle, de Drawing Room, le salon du dessin contemporain de Montpellier. Une manière de voir pour laquelle les deux critiques de la revue Rauven désignent l'influence de l'art conceptuel, dont on va voir qu'elle ne se résume pas à cette seule perspective, car outiller la pensée, outiller son dessin, E-I-N, mais cette fois-ci écrit d'une autre façon donc, peut s'avérer aussi très efficace, surtout en ces temps les nôtres, où il s'agit de réfléchir à la façon dont les médias influencent et manipulent les mentalités dans la plupart des domaines de nos vies quotidiennes. C'est en tout cas le projet auquel s'est attelé l'artiste conceptuel catalan Antoni Muntadas en s'intéressant depuis 1984 aux façons dont les médias soutiennent et accompagnent les campagnes présidentielles. Son terrain d'étude, les États-Unis, où il est venu s'installer en 1973 et où il est devenu par la suite l'un des artistes-chercheurs les plus importants de la prestigieuse école du MIT à Boston. Dans l'extrait de l'entretien qui va suivre, Muntadas explique la démarche de ce projet qu'il a intitulé « Political Advertisement » ou « Publicité politique », un projet mené avec son assistant, l'artiste américain Marshall Reeves.
Comme tous mes projets, ça prend du temps. Je crois que mes projets sont liés au temps. Je ne peux pas travailler en vitesse, et je ne veux pas. Political Advertisement commence en 1984. J'étais à MIT, j'ai trouvé Edwin Diamond, Political Science Expert, qu'il avait fait un livre Spots sur la publicité politique. J'ai parlé beaucoup avec lui et moi je disais, écoute, moi plus que les analyser, c'est ça que faisait lui, j'aimerais voir les images, pas voir la critique ou l'essai sociopolitique de l'image, mais confronter l'image et voir après les 50 que ça commence avec Eisenhower, comme a continué avec Kennedy, a continué avec Nixon, il a continué avec Ford, il a continué avec Bush, il a continué avec Clinton, il a continué etc., Obama, etc., que c'est une évolution de la politique et une évolution de l'image dans le monde de la publicité. Donc, on arrive à traiter un candidat politique comme un objet de consommation. Toute cette technique de vente est expressée par la publicité politique. Si tu regardes les années 50, l'évolution qu'il y a eu des représentations, c'était presque la photo et la radio. Après apparaît l'image en mouvement, noir et blanc. Après apparaît l'image couleur, la caméra dans la rue, cinéma vérité. Il commence les stratégies de vente par négativité ou par endorsement ou par différentes techniques que la publicité développe et qui s'incorpore à la campagne politique. Et chaque 4 ans, on se trouve avec Marshall Ruiz, qui est mon partner sur ce projet, pour 3 choses. Archiver, sélectionner et éditer la partie des dernières élections une semaine avant que l'élection se produise. C'est-à-dire, on les considère comme un fait politique avant les votes, d'avoir cette conscience, pas des discours politiques, mais aussi les discours politiques médiatisés par rapport à les systèmes de communication, les systèmes économiques et les différents idéologie populaire à part pour obtenir les votes. Si on voit une rétrospective entre les 84 qu'on a commencé et que c'était 40 minutes, et maintenant que c'est 1h presque 25 minutes, s'ajoute chaque année plus, c'est la nouvelle version numéro 9, c'est-à-dire 9 par 4, 36 ans de cette film, peut-être le plus long de l'histoire du cinéma, parce qu'il a une révision voulue chaque 4 ans. Et il fait qu'on propose une présentation publique avec un expert de sciences politiques ou des médias ou de la salle plastique ou de la publicité, ça dépend. Et on le présente à un endroit différent. On a passé par Lincoln Center, par cet espace alternatif, par MoMA, par... cette année sera à l'auditorium d'SVA. C'est un auditorium de 300 personnes. Et on introduit le travail et il y a cette discussion avec cet expert pour voir de quelle façon les dernières élections amènent au point de vue d'évolution de l'image et l'évolution politique des caractéristiques différentes. Pour nous, l'important c'est reconnaître comme un travail, un projet artistique. L'élément editing, c'est un élément important parce que on fait les montages à partir d'une sélection de milliers de... C'est-à-dire, il n'y a pas 40 annonces politiques et on choisit 24. Non, ce sont des milliers. Et la décision, c'est un dialogue entre nous à partir de voir comment change certaines esthétiques ou qu'il peut avoir des raisons de comme chacun des candidats il a eux-mêmes fait son propre portrait. Finalement, c'est une galerie des présidents, comme elle pourrait être les tableaux des présidents à la National Gallery à Washington. À un certain moment, on avait pensé avec Marshall de faire un film sur les political advisors, que ce sont comme des
annonceurs publicitaires. Oui.
Ce sont comme des mercenaires qui aujourd'hui sont aux États-Unis, demain ils seront à São Paulo, et après-demain à Tel Aviv, et l'autre, ça serait à Stockholm ou à Japon. Chaque président il prend son politique advisor pour se laisser construire sa campagne. Et on avait pensé le faire parce qu'il y a, je dis, les mercenaires, parce que ce ne sont pas des idéologues de droite, de gauche, ce sont des militants de la vente des produits. Et je crois qu'il reste encore. Et quelques sont connus, apparaissent dans les journaux, ils donnent des conférences, ils racontent comment ils étaient menés la campagne, etc.
De Visu se termine aujourd'hui. Je rappelle que vous pouvez toujours écouter l'émission en différé, donc l'émission du Rendez-vous des Arts Contemporains sur Radio FM plus PLUS en toutes lettres. Je rappelle que vous trouvez des informations sur le Salon du Dessin Contemporain sur Internet en tapant Drawing Room, D-R-A-W-I-N-G, plus loin Room, R-2-O-M 2016. Enfin, j'annonce l'exposition qui va se tenir à la galerie Annie Gabrielli à Montpellier, route de Nîmes, ce vendredi 23 septembre à partir de 18h et jusqu'à 20h30. Exposition intitulée Bifrost de l'artiste Shannon Guérico. Expo que l'on peut ensuite voir jusqu'au 5 novembre. De Visu, le magazine proposé par Lise Haute, était accompagné à la technique par Manu Lullier. Bonne journée à toutes et à tous, à l'écoute de FM+.